Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. L'un explore les tensions du quotidien avec une plume vive et lucide, mêlant humour discret et acuité sociologique. Le second nous fait découvrir ou redécouvrir, avec verve, des lieux ou des événements de notre belle Lorraine. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Adrien Chaubeau pour son recueil La Lorraine insolite, publié aux éditions La Nuit est bleue, et Marc Saïzenou pour son roman La vendeuse et la malapprise, publié chez Nerea Éditions. Avec nous également John Bullitt qui nous fera la lecture de la suite de sa nouvelle 20 minutes seulement. Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour Mona.
Bonjour Mona.
Alors nous allons commencer avec Marc Saïzenou. Marc, La vendeuse et la malapprise est votre 7e roman. Alors d'où est venue l'étincelle, l'idée de départ qui a donné naissance à ce roman ?
La vendeuse et la malapprise ?
Oui.
Écoutez, il y a une rencontre fortuite sur un marché à Comé.
Oui.
Comé qui est une ville située au sud-ouest du Bénin, donc en allant vers le Togo.
Oui.
Et donc suite à cette rencontre qui a commencé donc, entre donc, la malapprise... Et une vendeuse du marché, les deux femmes ont senti le besoin de continuer à correspondre.
Oui, d'accord, mais là, je vous demandais, vous aviez rencontré quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce
roman ?
De ce roman, oui.
Voilà, ça remonte en fait à beaucoup plus loin que cela. En fait, j'avais l'intention au début d'écrire une trilogie sur la contrainte de l'amour.
D'accord.
Une histoire de trois femmes qui ont été confrontées donc, à ce que j'appelle les limites de l'amour. Donc l'amour que j'appelle en mode libertreinte. Donc j'avais commencé à écrire donc la première histoire et puis un jour en parlant avec une cousine par alliance, elle me dit écoute, j'en ai marre des hommes qui écrivent sur les femmes. Je dis ah bon, elle me dit oui c'est quand même mieux que ce soit des femmes qui parlent des femmes parce qu'elles se connaissent, on se connaît mieux. Je dis ben écoute ouais bon si tu veux mais bon en quoi ça te gêne quoi. Puis en échangeant avec elle, j'ai compris qu'en fait, ce serait mieux que ma trilogie se transforme plutôt en une conversation entre les femmes, entre ces femmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris les deux des trois trilogies que je voulais écrire, enfin deux parties, pour donner lieu à cette conversation entre ces deux dames.
Donc en fait, le roman commence avec une panne de voiture sur le marché donc, de Comé, au Bénin. Et puis, c'est donc une rencontre entre une vendeuse qui va aider la dame qui est en panne, en fait, hein, c'est ça ?
Exactement, tout part de là.
Oui.
Donc, une panne de voiture, bon, fortuite, hein, c'est ce qui arrive de temps en temps.
Oui.
Les deux n'avaient après rien de commun, sauf qu'en attendant que le mécanicien arrive, elles ont commencé à discuter. Et là, la vendeuse s'est dit, tiens, voilà, devant moi, quelqu'un qui... ne pensent pas du tout comme moi. Enfin, ils ont commencé à échanger sur des tas de choses. En l'occurrence, de l'amour. Ça paraît tout bête, mais c'est pas la vendeuse lui demande, mais au fait, est-ce que vous serez jusqu'où prête à aller par amour pour votre conjoint ? Bon, évidemment, l'autre a trouvé la question bien curieuse. Et donc, de fil en aiguille, elles ont commencé à discuter de ça, des questions de sentiments d'amour profond. Et enfin, à un moment donné, il y a la vendeuse qui lui demande, mais au fait... tout à l'heure, vous m'avez dit, madame, que vous étiez prêt à renier vos parents par amour pour un homme. Je dis oui, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, la vendeuse avait expliqué un peu plus tôt qu'elle a renoncé à un mariage parce que ses parents n'en voulaient pas.
C'est ça, oui.
Donc l'autre lui a fait la morale d'écouter. Comment est-ce possible ? Vous aimez votre mari, vous aimez le jeune homme, pourquoi ne l'avez-vous pas épousé ? Et c'est là qu'elle lui a dit, écoutez, non, moi, j'obéis à mes parents. Et ça passe pour moi avant mon sentiment pour un homme. Donc, c'est des petites histoires comme ça. Un peu plus loin, justement, la vendeuse a essayé de justifier la polygamie de son père en expliquant, oui, que c'est parce que la femme ne pouvait pas avoir d'enfant qu'elle a eu une deuxième femme. Donc, d'un côté, ce n'est pas possible. On ne va pas épouser une deuxième femme parce que la première ne peut pas avoir d'enfant. Et ben, si vous n'allez pas renoncer à la paternité, au sentiment de maternité, uniquement par amour. Donc, c'est des petites histoires comme ça qui ont conduit les deux femmes à se dire, écoutez, si on n'allait pas continuer à échanger par la suite. Donc, c'est là que je suis parti justement de ce point, de ce départ sur ce marché.
Oui.
Qui a par la suite, donc, qui m'a amené donc, à, en fait, fusionner mes deux histoires que je voulais raconter au début. Dans les deux trilogies que j'ai transformées en fait en un dialogue entre ces deux femmes.
Oui. Donc, elles poursuivent des relations épistolaires. Donc, alors... Est-ce que c'est parce que, comme le dit la vendeuse, je vous cite, « écrire fait réfléchir sur les mots. Quand on parle, on n'a pas le temps de réfléchir entre deux phrases, entre deux mots. Oui. Quand on écrit, il est facile de réfléchir avant de choisir son mot. Il faut chercher le bon mot pour dire sa pensée. » Alors, vous aimez prendre votre temps, vous, pour choisir le bon mot, le mot adéquat, là, juste qui va bien dans votre récit ?
Ben, tout à fait. Pour moi, l'écriture, c'est ça, justement. Parce qu'un mot qu'on lance en l'air, en fait, on ne sait pas comment ça peut retomber. Mm-hmm. C'est pas sur qui ça peut retomber, dans quelles conditions, parce que le lecteur, parfois, il peut bien le prendre, peut vraiment comprendre le sens que vous allez donner à votre phrase, à votre mot.
Oui.
Et parfois, ça tombe complètement à côté parce que vous avez juste oublié une virgule ou quelque chose qui fait que, quoi. Pour moi, la lecture, enfin, l'écriture, c'est d'abord ça. Mm-hmm. C'est d'abord trouver le mot juste pour atteindre la personne et l'idée qu'on veut défendre.
Oui, c'est ça.
Comme je dis, entre ce qu'on pense, ce qu'on écrit, ce que l'autre entend, ce que l'autre comprend.
Oui,
c'est
tout un monde.
De gap.
C'est sûr. Alors, vos deux héroïnes ne sont pas nommées. On peut les différencier que par leur signature.
Exactement.
La vendeuse et la malapprise. Alors, pourquoi ce choix ?
Ça, c'est volontaire. C'est justement pour que le récit tourne justement autour d'elle. C'est le mari de la vendeuse, les enfants de la vendeuse, les parents de la malapprise.
D'accord.
Les enfants de la malapprise. Mm-hmm. Je me suis en fait nommé les autres personnes, leur donnerait trop d'importance, alors que pour moi, c'est un roman pour ces deux personnages.
D'accord.
Pour la vendeuse et la malapprise.
Mm-hmm.
Qui n'ont même pas d'ailleurs de prénom. Donc c'est vraiment voulu pour qu'elle soit vraiment le centre d'intérêt de tout le récit. Mm-hmm. C'est, moi, j'aime bien les personnages dans les romans. Pour moi, j'écris un roman autour d'un personnage et pas le contraire. Pour moi, c'est. Comment dire, c'est l'histoire qui doit servir le personnage central. Quoi.
D'accord. Alors, ces deux femmes semblent a priori très différentes, mais au fur et à mesure du roman, le lecteur ne peut que constater qu'au fond, elles sont très ressemblantes. Alors, est-ce une façon de nous faire comprendre que, quelle que soit notre couleur de peau, notre milieu ou notre culture, nous avons tout à apprendre les uns des autres ?
Ben exactement, tout à fait. C'est vrai, là, c'est vraiment la philosophie finale. Enfin, c'est là où je voulais en arriver.
Mm-hmm.
C'est notre côté de base. On sait deux femmes qui tout opposent. Hein,
bien sûr.
Dans les milieux complètement différents. L'une a fait des études longues, l'autre pas du tout.
Mm-hmm.
D'ailleurs, cet antagonisme, on le voit tout le long du roman. Quoi,
oui, oui, bien sûr.
Elle n'arrête pas de dire « Ah tiens, vous qui avez fait des études, mais au fait, vous devez comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. » Et l'autre dit « Ah ben non, c'est la vie, on apprend avec la vie. » Enfin bref, les deux essaient tout le temps de se chamailler, enfin de se titiller.
Oui, oui.
Et puis on finit par se rendre compte que finalement, malgré les différences qu'elles ont, pareil à l'éducation, enfin, ben, elle, la vendeuse, elle est d'une famille nombreuse. Que la malapprise, elle était la seule fille de ses parents, enfin, seul enfant de ses parents, qui mm-hmm. étaient aussi déjà des enfants, enfin, des enfants uniques.
Mm-hmm. Oui, c'est pas du tout la même, c'est pas la même ambiance.
C'est pas la même ambiance, c'est pas la même ambiance d'enfant, c'est pas la même vie familiale, c'est pas la même vie d'adolescente. Enfin, je tous les oppose.
Mais oui, c'est sûr.
Mais au fur et à mesure qu'elles se racontent leur enfance, leur adolescence, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus de points en commun.
Que de différences.
Que de différences, quoi.
Mm-hmm. Alors, dans votre roman, vous nous donnez à comprendre des traditions culturelles béninoises, enfin certaines. Alors, le patriarcat, naturellement, tellement prégnant, mais en même temps assez protecteur. Vous pouvez nous en parler de ce patriarcat, quand même. C'est quand même... Là,
oui,
la vendeuse, elle a pas pu épouser celui qu'elle voulait. Son mari a été choisi par son papa.
Par son papa, tout à fait. Ben, c'est malheureusement encore le cas.
C'est encore le cas.
De moins en moins, quand même. Bon, mm-hmm. faut le reconnaître. Ben oui, ce que vous voulez, c'est... Comme elle dit, hein, je fais confiance à mes parents. Mon papa ne veut que mon bien.
Mm-hmm.
Ah ben oui, évidemment. Si on parle de ce postulat, oui, le papa ne vient que ton homme. Donc mon papa ne peut choisir que celui qu'il estime bien pour moi.
Oui, oui. Mais en même temps, il y a dans votre roman, sans trop en dévoiler, on sent qu'il peut aussi être protecteur, ce patriarcat. Notamment quand la malapprise se retrouve veuve.
Tout à fait.
Hein, c'est vrai.
C'est un peu ça l'idée qu'il y a tout au bout. Quoi. C'est qu'en fait, oui, le patriarcat, ok, ça a des tas de défauts, mais aussi c'est très très protecteur, enfin, surtout pour la femme. Quoi.
Oui, c'est ça.
Forcément, parce qu'on estime qu'une femme est plus faible qu'un homme, donc il faut la protéger quoi qu'elle arrive.
Mm-hmm.
Est-ce que ça ne lui enlève pas aussi une certaine indépendance ?
C'est vrai. Alors, la religion, tu as une place prépondérante dans la vie de la vendeuse.
Oui.
La religion est toujours aussi importante au Bénin ?
Oui, très, très.
Très ? Parce que là, bon, elle fait quand même appel... Enfin, elle est trouvée. Il y a quelqu'un qui vient la voir. C'est quand même l'espèce de visionnaire... on ne sait pas s'il est catholique, s'il est...
Non, là, c'est plus vaudou, quoi.
C'est plus
traditionnel, là, oui.
Oui, mais il se présente quand même comme l'envoyé de Dieu.
Vous savez, les cultes vaudous se basent d'abord sur Dieu, hein.
Ah d'accord.
Ah oui, les prêtres vaudous commencent d'abord par remercier le Seigneur pour sa gratitude, pour aussi. Oh, non, il n'y a pas que le christianisme qui.
D'accord. Non, mais le Dieu, c'est vrai que le toutes, Dieu, toutes les religions ont un Dieu.
Exactement.
Oui, mais
et
bon.
les vaudous aussi, ils ont un Dieu. Et c'est le.
Oui, mais quand ils l'appellent le Seigneur, je pensais que c'était plus catho qu'autre chose. Mais
non, bon, c'est vraiment un visionnaire vaudou. Ouais.
Oui, oui. Et donc, elle l'écoute quand même.
Ah, ben elle l'écoute, oui, tout à fait.
Oui.
C'est, justement, Bénin, c'est ça qui est très. Enfin, que moi j'aime bien, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. Quoi.
Oui, oui.
Les gens, comment dire, si on n'a pas le temps d'aller à la messe le dimanche, on va à la mosquée le vendredi. Si Dieu existe, il va nous pardonner. Je dis ça, c'est une belle philosophie. C'est un truc que moi, j'ai grandi dans cette atmosphère où Dieu est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus pour les musulmans que pour les chrétiens. Ou...
Bien sûr.
Donc, aller dans... Moi, enfant, j'allais... Moi, je suis chrétien de... Enfin, chrétien plutôt protestant de naissance. Mais bon, si j'arrivais d'aller à la mosquée, c'est le moins de soucis. Hein.
Oui. Alors, la curiosité de l'autre et la tolérance sont au cœur de votre démarche. Vous pensez que la littérature peut réellement transformer les regards ?
Oh oui.
Oui ?
Je crois fermement à ça. En fait, la littérature, pour moi, c'est une ouverture sur le monde.
Mm-hmm.
C'est la façon de voyager, de découvrir d'autres civilisations sans sortir de son lit, sans partir de chez soi. Et forcément, quand on s'éloigne un peu de notre quotidien, par la pensée, par la lecture, on est amené à réfléchir. Et comme dit la vendeuse, souvent dit, mais de toute façon, c'est quoi ces inutilités auxquelles on pense ? Ben oui, c'est pas si inutile que ça, toutes ces choses qui nous font réfléchir.
Oui, oui, parce que votre vendeuse, en fait, elle n'a pas été longtemps à l'école, mais elle a une capacité de réflexion quand même assez remarquable.
Exactement, tout à fait. C'est comme ça que j'ai voulu ce personnage de la vendeuse, quoi, justement, qui n'a pas été à l'école, mais qui pourtant réfléchit à des choses essentielles.
Oui, oui, bien sûr.
Se pose des questions.
Oui, oui, que la malapprise ne s'est jamais posée, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Ils avaient demandé, lui demander, au fait, vous avez été à l'école pour apprendre quoi ?
Oui, c'est ça.
Je vous pose des questions essentielles, vous me dites, ah ben, je vis pour être heureuse. Ben oui, d'accord, mais être heureux, c'est pas... Ça veut dire quoi plus concrètement pour vous ? On ne vous a pas appris ça à l'école ? C'est quoi le bonheur ?
Alors, la vendeuse a un secret dont elle n'a parlé à personne. Elle le raconte donc à sa correspondante. Et la vue de son secret semble libérer la vendeuse. Vous pensez que partager des secrets presque inavouables, c'est une sorte de catharsis ?
Oui, j'y crois. Je crois fermement que, de toute façon, quelque chose qu'on garde en soi ne peut vous faire que du mal à l'intérieur. Il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre.
Mm-hmm.
Et le fait de sortir ce genre de choses, ça vous libère. Hein, c'est pas cette expression, se libérer de son secret, hein, c'est bien ce qu'on dit.
Oui, oui, bien
sûr. Se libérer de quelque chose, donc ça, c'est une importance capitale. Et c'est vrai que la malapprise lui a permis de se libérer de...
Oui, c'est ça, parce que...
De ce poids très lourd pour elle.
Oui, parce qu'elle portait vraiment un poids très, très lourd. Oui. Mais en même temps, quand on connaît le secret, on se dit qu'elle était quand même... Elle est un peu... Elle est téméraire, elle ose. Elle ose faire des choses.
Ben parce que la maladie est plus forte que tout.
Quoi. Oui, c'est
et
ça.
Puis le besoin d'être heureux, avoir un enfant bien portant, pour elle, c'était devenu un rêve.
Oui, justement, on va en parler. La vendeuse, elle a donc 5 enfants, dont certains sont atteints d'une maladie génétique. Alors, je vais essayer de le dire sans bégayer. La drépanocytose, c'est
oui,
ça.
La drépano, pour être plus beau, plus chantant.
Une maladie endémique dont on parle peu, vous consacrez tout un chapitre à cette maladie. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, je ne suis pas biologiste, mais bon, j'en ai tellement entendu parler que... En fait, il y a plusieurs formes de la maladie. Il y a la forme très légère, la forme AS, que moi, je n'ai pas, par exemple. Il y a beaucoup qui sont porteurs. Ça se manifeste essentiellement par des fatigues, en fait. En gros, c'est le sang qui circule moins bien. Parce que les globules, au lieu d'être... allongés comme partout, c'est un peu arrondi. Donc, ce qui est arrondi dans les veines...
Il circule moins bien.
Circule moins bien, forcément.
Oui,
donc,
oui.
Ça a tendance à boucher les veines.
Oui.
Donc, la forme SS, qui est la forme la plus grave, c'est justement ça. C'est que... Donc, en fait, c'est la proportion de 16...
Ils sont carrés ?
Oui, carrément. Pas loin.
Mais alors là, la vendeuse et son mari ont chacun la forme bénigne, mais le fait de faire des enfants ensemble
C'est ça le risque justement de la drépano.
Oui, oui.
Et enfin, je sais qu'en Bénin, normalement avant de se marier, il faut faire des tests sanguins. Et puis après, bon, si vous êtes tous les deux AS, normalement, vous ne devrez pas vous marier.
Oui. Mais à l'époque où se passe le, où se situe le roman, apparemment, il n'y avait pas les tests. Ça se faisait déjà.
Les gens ne respectent pas vraiment. Quoi. Oui, ça se fait. Ça se fait encore. Oui,
oui, oui. D'accord.
Mais c'est quand même se dire quelque part, c'est une limite à l'amour. Quoi.
Oui, ben c'est sûr.
J'aime bien cette femme, mais pourtant, ben non, le, mon test sanguin m'interdit de me marier. Mmh. C'est quelque chose qui peut se comprendre. Moi,
oui, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de malades.
Oui. Beaucoup, bon, beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein.
Oui, ouais. Apparemment, oui. C'est pas encore venu dans nos contrées, mais ça ne
si, déjà. Même en France, on fait ce genre de test pour les enfants dont un des parents est noir. C'est un mal qui touche les Noirs et les Arabes. C'est vraiment toute la bordure méditerranéenne. Mm-hmm. Et l'Afrique noire. Quoi. Mais malheureusement, on en parle très peu parce que ça ne concerne pas, en parenthèse, certaines populations. Quoi.
Oui, c'est sûr. Alors, vous êtes né au Bénin, que vous avez quitté à l'âge de 17 ans pour effectuer vos études supérieures en France.
Oui.
Alors, vous avez donc du recul pour apprécier ou pas une des traditions béninoises. Alors, laquelle de ces traditions voudriez-vous voir disparaître et laquelle préférez-vous?
Oh là là. Ah oui, question profonde. Laquelle j'aimerais bien voir disparaître?
S'il y en a une.
Bon, ça s'adapte. Quoi. Faut plutôt que le patriarcat s'adapte un peu plus aux réalités quotidiennes. Enfin.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le poids des parents est beaucoup plus important en Afrique. Enfin. Quand je le Bénin, c'est plus l'Afrique. Quoi. Les parents ont un rôle beaucoup, beaucoup plus important. Ceci dit, c'est quand même pas non plus forcément une mauvaise chose. Enfin, quand vous dites, c'est aussi protecteur. Quoi.
Oui, oui, c'est ça.
Et puis la famille, en fait, protège l'ensemble de descendants de la famille.
Mm-hmm.
Comme dit en Afrique, ce n'est pas les parents qui éduquent l'enfant, mais c'est toute sa famille.
Ouais.
Bon, si en France, on peut appliquer cette règle, je pense qu'il y aurait un peu moins de délinquance.
C'est possible. C'est peut-être aussi le fait que la famille reste soudée au Bénin.
Oui.
Hein, c'est ça.
Tout à fait.
Mm-hmm.
Moi, je ne me vois pas ne pas faire de reproches à un cousin éloigné parce qu'il n'est pas mon enfant. Quoi. Pour moi, je le prends comme un de mes proches parents.
Alors, le roman se termine par un de vos poèmes. Vous aimez écrire de la poésie et vous en écrivez souvent?
Oui, j'aime pas mal, oui, de temps en temps. Mais le problème de la poésie, c'est que le public est quand même relativement restreint. Les gens ne sont pas très sensibles à ça.
Mmh.
Parce que moi, j'aime la poésie, c'est le fait de pouvoir donner des idées essentielles en très peu de mots. Quoi.
Mmh.
Bon, une poésie défend une cause, défend une idée principale, une idée maîtresse. Et bon.
Mais peut-être que ça vient du fait, moi, j'ai essayé de réfléchir, je me disais, on a commencé par les poèmes du XVIe siècle, après du XVIIe, et du coup, on n'ose pas juger en fait, les poèmes, on ne sait pas si c'est moyen ou si ce n'est pas bien. Les gens ne se posent pas la question avec une chanson. Une chanson, ils aiment ou ils n'aiment pas.
Oui.
Il n'y a pas le même impact quand on dit c'est un poème. Les gens ne savent pas si c'est bien ou si c'est pas bien.
C'est vrai que... Ceci dit, en poésie, il y a pas mal de prix qui sont décernés. Bon, pour des différentes associations, je prends la SPAF, c'est aussi des poètes. Bon, après, autour de moi, je connais pas mal de poètes. Et ça, quand je discute avec eux, ils me disent toujours, mais écoutez, notre public est très restreint. Et puis, bon, on écrit la poésie plus pour nous que... Enfin,
oui.
On sait que ce sera très peu lu après un roman. Quoi.
Oui, oui. Moi, je sais que je fais une émission par an, à peu près, hein, avec des poètes de la région.
Mmh.
Et c'est intéressant, en
oui.
fait. C'est ça. Bon, je leur demande de choisir des poèmes un peu plutôt courts et, je veux dire, un peu entraînants, pas trop abscons, parce que ça passe pas. Pour les auditeurs, on les perd, quoi, un
ben
peu.
Oui. Hein mmh. Voilà. Moi, je l'ai intitulé justement la Peureuse. En fait, c'était un peu pour résumer l'ensemble, justement, de l'écriture, quoi.
Oui, d'accord.
C'est pour que la vendeuse, c'est vrai qu'elle a eu peur tout le temps. Enfin, c'est comme... Ça ne se voit pas, mais bon. C'est vrai que...
Oui, bah, c'est vrai.
Tout ce qu'elle a pu faire, la peur était aussi derrière. Quoi.
Oui, mais ça ne l'a pas empêché d'agir.
Oui, mais justement, c'est un peu ça qu'elle résume à la fin. Enfin, via cette poésie, elle dit, oui, écoutez, ma peur a failli me brider à un moment donné, mais j'ai réussi justement à m'en débarrasser pour avancer. Quoi.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez d'autres projets d'écriture en cours déjà?
Oui, j'ai un projet qui est assez bien avancé, toujours. Enfin, toujours au cours de la maladie aussi.
Ah, d'accord.
Parce qu'au début, j'avais une trilogie.
Oui.
Donc, pour l'amour en mode libertin. Donc, j'en ai fusionné deux dans ce roman.
Oui.
Donc, la troisième est en cours d'écriture, là.
D'accord.
Mais sous une forme traditionnelle, quoi. Donc, c'est une histoire autour d'une maladie aussi. Enfin, qui touche encore plus les femmes que.
D'accord. Alors, dans votre roman, la vendeuse écoute une chanson, c'est Black Coco. Alors, il semblerait que ce soit une chanson très populaire au Bénin. Vous pouvez nous en dire quelques mots avant de l'écouter?
Ah oui, tiens. Oui, c'est une chanson qu'on écoute quand ça va mal.
Oui.
J'aime cette chanson à cause de sa poésie. Mm-hmm. Parce qu'en gros, il dit quoi? Je suis une pierre noire. Je suis né sous une bonne étoile. Pour l'instant, mon étoile, quelque part, est éteinte, mais elle finira par s'allumer. Parce que je suis né sous une bonne étoile. En gros, c'est quoi? Je suis... Bon, ça continue un peu après. Le pêcheur ne peut pas pêcher une hyène. En gros, c'est des tas de petits symboles pour montrer qu'en fait, le meilleur est à venir pour moi. Quoi. Pour l'instant, ça va mal, mais bon. Comme je suis né sous une bonne étoile, ça finira forcément par s'arranger.
Bon, bah, espérons que tout le monde... autour de cette table est née sous une bonne étoile.
C'est un bon adage.
Nous allons donc écouter C'est Bla Coco, interprété par Pépé Oleka.
C'est pas la coco, les noms d'or, yeah, ouais. Fonds en bois clair, yeah. Ah oui, ah oui, oui. C'est chez qu'on dit mon yadeo. Zona vodo, tchabi, di, ouais, de nana, qu'on en dit, oh. On y en est, moui, oué, tegué. Bocani, men, j'en me roué là. Eh, ouais, n'y a pas de bolosso. Qu'est fort, tu riba, eh, ouais. Non, y t'en ma, oui, l'ira là. A komo yo povo che anano pele Nime nuon kuda lo che me ho ho Gema sa wele dandan le kunon sa o A wian wan we se che kondi mon yade o A wian wan we se che kondi mon yade o A wian wan we se che kondi mon yade o Zona bodo, tchèbi di wède nana kuno di yo Onyo en oui ou e tegbe Poka nyi men jome wè la Ewe nyi an popo lo so Ke fojou I ba ewa Nanyi koma wili hala Ako mo yon popo tche anan obele Nye me en ou ankora lo tche me ho ho Sa wele tantan le konon sa o A wian wan we Se che kondi mon yade o A wian wan we Se che kondi mon yade o A wian wan we Se che kondi mon yade o A wian wan we Se che kondi mon yade o A wian wan we Se che kondi mon yade o
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Adrien Chaubeau, venu nous présenter son recueil La Lorraine insolite, publié aux éditions La Nuée Bleue, et Marc Saizenou, venu nous présenter son roman La Vendeuse et la Malapprise, publié chez Nerea Éditions. Alors avant de parler de La Lorraine insolite d'Adrien Chaubeau, John Bullitt va nous faire la lecture de la suite de sa nouvelle 20 minutes.
20 minutes, montre en main, 20 minutes... Pas une de plus. Ah, je vous en ai parlé dans une précédente émission. 20 minutes, c'est ce que m'accordait à chaque rencontre Jacques Bedeau, c'est son minuteur d'homme courtois mais pressé, pour nous rappeler le temps imparti à tous les deux. 20 minutes pour lui présenter mes nouvelles chansons, mes textes écrits durant ce dernier mois, et le convaincre éventuellement de me signer un contrat d'édition musicale avec un disque. Ce Jacques Bedeau, sans question, producteur de disques à Polydor et en outre oncle du célèbre humoriste Guy Bedos, avait un passé de producteur long comme le bras. Ah, il avait du flair. Il avait découvert les talents de Serge Reggiani, Maxime Le Forestier, Dick Engard, Alain Barrière et Moustaki. Mais attention, attention, tout n'est pas toujours aussi rose. Jacques Bedeau, réputé pour son flair, a déniché effectivement des jeunes artistes prometteurs, mais m'a raconté aussi son plus gros échec. Dans les années 85-86, Jacques avait entendu parler en termes flatteurs d'un jeune chanteur qu'il connaissait absolument pas, mais dont les gens du métier commençaient à beaucoup parler. Et il aurait joué cet artiste auparavant pendant 2 ou 3 ans dans un groupe dont il était le leader, qui s'appelait Taifong. Bedos apprend également que le leader en question a laissé tomber le groupe et la chanson brutalement il y a déjà 1 ou 2 ans. Mais dans le milieu, il se le dit qu'il voudrait retenter une carrière musicale, et cette fois-ci en solo. Alors, grâce à son carnet d'adresses, Jacques Bedos a réussi à fixer un rendez-vous au chanteur prometteur un lundi matin, à 11h précises dans son bureau personnel de chez Polydor. Là, il compte bien le ferrer rapidement, quitte à lui faire signer un contrat un peu bidon pour le garder dans son giron et puis voir la suite. Mais, patatras, le samedi précédent, il apprend que la direction de Polydor à Paris reçoit un grand ponte américain qui veut racheter le groupe, alors tout le monde doit se retrouver au siège ce même lundi à 11h justement pour en discuter. Jacques Bedos est dépité, mais il doit y aller. Pour ce rendez-vous avec l'artiste, il charge donc son jeune assistant de le remplacer en lui donnant quelques consignes. Alors, tu vois, tu écoutes ce qu'il dit, tu le prends en photo, tu le fais chanter avec sa guitare et surtout, quoi qu'il te chante, tu lui signes un contrat d'artiste. Hein. Je le revois ensuite la semaine prochaine, t'as bien compris? Ouais, pas de problème, boss. Il chante et je le fais signer. Bon, parfait. On se revoit dès la fin de notre réunion à la noix avec l'autre Amerloc. La réunion dans le 14e au siège de Polydor est coulée. Jacques Bedos rentre à son bureau personnel quelques centaines de mètres plus loin, pressé d'avoir des nouvelles fraîches sur le prometteur petit jeune. Dans son bureau, son adjoint lit une bande dessinée en buvant un coca, les pieds sur la table. « Alors, il est où le gars ?»« Ouais, mais quel gars ?»« Bah, le chanteur que tu devais recevoir. »« Oh, lui, alors là, patron, là, c'était vraiment un naze, hein. » Il jouait pas mal de la gratte, mais il chantait avec une voix toute pointue. un peu, vous voyez, une voix de gonzesse, mais qui serait pas une gonzesse. C'était horrible. Je l'ai viré à la deuxième chanson, qui était d'ailleurs aussi naze. Mais c'est toi le naze, je t'avais dit de le faire signer. Où est le contrat? Où est passé le gars? Ah, mais trouve-le-moi le vite. Mais quel imbécile, allez, remue-toi. Jacques Bedos tempête, vocifère, incendie son adjoint, puis décide de partir lui-même à la recherche du chanteur qu'il ne trouve malheureusement pas de toute la journée. Malgré toutes ses investigations, ses nombreux coups de fil restés sans réponse au domicile de ce dernier. Au soir, enfin, l'artiste décroche son téléphone. « Allô? Oui? Jean-Jacques Goldman, je vous écoute ?» Cher monsieur Goldman, je suis confus. Mon adjoint est complètement stupide, je l'ai vertement réprimandé, mais comme je vous l'avais dit, moi je suis prêt à vous faire signer dès demain matin un contrat d'exclusivité et produire votre disque, il faut qu'on se revoie. Ah non, mais désolé, cher monsieur Bedos. Quand j'ai quitté votre bureau, 20 minutes après, j'étais dans le bureau de monsieur Lombroso. Monsieur Lombroso, vous savez, l'éditeur. Alors j'ai signé avec lui, hein, avec monsieur Lombroso, pour un disque au label Epic. Ah, c'est dommage. Alors, au revoir, monsieur Bedos. Au revoir. Oui, 20 minutes, c'est le temps où effectivement on peut tout réussir ou bien tout perdre. Ah, ben justement, j'en ai fini. C'est donc à toi, Mona.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Adrien, la Lorraine est souvent associée à une histoire de conflit et d'industrie. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à en chercher les facettes insolites?
J'ai envie de dire que finalement ce livre, je l'ai commencé dans l'enfance. Quand j'étais petit, quand j'étais ado, 10 ans, pré-ado, j'avais un petit livre qui était vraiment mon livre de chevet qui s'intitulait « Tout sur tout ». C'était un ouvrage qui était édité par une grosse firme à l'époque et ça, c'était le sous-titre en fait, c'était Dictionnaire de l'insolite et du sourire. Et vraiment, ce que j'aimais vraiment dans ce livre, j'ai découvert quelques années après que c'est ce qu'on appelle un miscellané, Et donc, on apprenait dans un ordre alphabétique tout plein de choses, à la fois des choses anecdotiques, des choses en lien avec des auteurs, des choses en lien avec la langue française. Et vraiment, je me plongeais dedans régulièrement, j'y retrouvais toujours de la matière. Et puis finalement, moi je suis natif des Vosges, mes racines sont essentiellement dans le Saintois. Je me suis toujours interrogé, un peu émerveillé justement de ce qu'il peut y avoir autour de nous, de trouver vraiment à droite, à gauche, des petits moments d'émerveillement, des lieux, se dire que voilà, on marche sur les sentiers, sur les mêmes pas que d'autres personnes plus connues, plus célèbres, etc. Ont connu avant nous, et finalement arrivé à Nancy pour mes études, par exemple, voilà, on découvre aussi des plaques sur les murs, des plaques qui indiquent un tel est né ici, un tel a étudié là. C'est ça qui a prédestiné véritablement, je pense, à la rédaction de ce livre. Alors il se trouve que voilà, j'ai embrassé la carrière de journaliste un temps en lien avec la culture, en particulier à la culture régionale, et c'est toute une série de petits sujets que j'avais envie de traiter, d'approfondir, sur lesquels j'ai eu envie d'enquêter, parfois essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir derrière, mettre à jour peut-être des légendes plus ou moins urbaines, plus ou moins rurales, et puis pour justement voilà aller au bout de certaines petites interrogations, questions, découvertes, avec un peu d'émerveillement et puis surtout de la bonne humeur.
Mmh. Alors comment avez-vous déniché toutes ces histoires et ces lieux ? Vous avez une anecdote marquante sur une découverte que vous avez faite pendant vos recherches ?
Bonne question. Certaines sont connues. Certaines histoires sont relativement connues, on va dire quand même du grand public, mais méritent parfois un petit peu d'éclaircissement, de se remémorer peut-être certains détails, ou voilà, on peut dire, ouais. Par exemple, j'entendais parler à l'époque où des premières fois où je suis allé me perdre dans le nord de la région, j'entendais que la Villiers aurait habité dans le nord de la Lorraine. Pas exactement, c'est peut-être plus subtil que ça, et c'est voilà ce genre de petites choses. J'avais envie de creuser, de vérifier s'il y avait une authenticité. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros côté pop culture dans le livre, et ce que la chronique de John juste avant me fait bien sourire, parce que c'est tout à fait le genre de choses qui aurait pu coller avec l'esprit. Ça colle très bien avec l'esprit du livre.
Bah oui.
Et je ne sais pas si c'était fait exprès, mais, mais voilà, quand on découvre par exemple que la première photo du Jimi Hendrix, Hendrix Experience a été prise place Stanislas, parce que le groupe s'est formé 15 jours avant, on reconnaît très bien les pierres de l'hôtel de la Reine derrière, voilà, on se dit que forcément ce jour-là, il y a peut-être qu'il y en a un qui n'a pas loupé ses 20 minutes de gloire en prenant cette photo par exemple.
Ouais, oui, c'est sûr. Bon. Moi, j'ai quand même appris, j'ai vérifié que la Moselle se jetait dans la Meuse. Bref.
Alors, c'est en effet c'est une particularité géographique assez exceptionnelle.
Ben oui.
Que même les Lorrains eux-mêmes ne connaissent pas. C'est très géographique, là, pour le coup. Ça relève de l'hydrologie, ça relève de la géographie vraiment physique. C'est quelque chose d'assez méconnu et, mais par contre, d'assez inédit au monde, vraisemblablement. Peut-être même, j'ai peur de dire, je suis plus sûr à 100%, mais je crois qu'on peut dire que c'est inédit. C'est en fait comment, finalement, une rivière, donc la Moselle, pendant longtemps, il y a 2 millions d'années, hein, se jetait dans la Meuse. Vous voyez tous cette boucle que fait la Moselle au niveau de Toul sur une carte lambda. Vous verrez très bien comment justement elle va finalement se rejoindre la Meurthe à hauteur de Pompéfroid. Mais en fait, pendant longtemps, au niveau de Toul, elle continuait tout droit. Et puis c'est le travail du terrain, pour faire court, qui a fait que tout d'un coup, elle a fait ce virage un peu en épingle, comme ça, à plus de 90 degrés. Mais voilà, c'est une spécificité géologique qui est complètement, qui est connue essentiellement des géographes, mais que j'ai eu l'occasion justement de découvrir à l'époque où j'étais étudiant en histoire. C'était le département de géographie qui avait carrément organisé tout un congrès justement sur ce point.
Mmh. Alors la Lorraine est connue pour certains lieux emblématiques, la place Stanislas ou la ville de Metz. Avez-vous volontairement mis l'accent sur des coins moins connus pour surprendre le lecteur ? Et si oui, quel département lorrain a été le plus insolite à votre avis ?
Alors... c'est sûr que voilà, en faisant ce livre, l'idée n'était pas de resservir des choses déjà vues, entendues sur Stanislas,
sur
voilà, il s'agissait. Mon idée était de faire autre chose. plein de choses ont été faites par des historiens très sérieux, très compétents, à qui je laisse volontiers la main en la matière. Pour le coup, moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus drôle, d'un peu plus léger. En matière de lieux, ouais, c'est clair qu'il y a, ça manque pas. C'est sûr que voilà, on a tous, je pense, un lieu. Enfin, on peut tous trouver un lieu de prédilection, un endroit qui nous a touché en région. Si j'en cite certains, c'est presque plus lié justement à ce qui a pu s'y passer que ce qui est. Je parle du champ de roche de Barbet-Sérou, qui pareil, ça c'est quelque chose que je visitais quand j'étais enfant, parce que j'étais originaire de ces endroits-là, et ça méritait là aussi peut-être quand même un petit explicatif sur les aspects géologiques. Là aussi, on est sur quelque chose de très spécifique, d'assez unique. Mmh. Après, voilà, des endroits, je pourrais citer bien évidemment la colline de Sion pour ses étoiles, avec tout ce qu'il peut y avoir en lien, mais je pourrais pas dire qu'il y a un département qui est plus mis en avant ou en valeur, parce que voilà, tous ont, en parcourant la région, pour des raisons professionnelles ou personnelles, j'ai découvert plein d'endroits qui ont tous leur charme, leur surprise, vraiment très très sincèrement, quoi que ce soit, en allant sur les champs de bataille de la Meuse, en allant dans les coins de Beach par exemple, où j'étais allé pour complètement autre chose, j'ai souvenir d'un endroit très, enfin les Vosges du Nord, je garde un côté vraiment très très charmant.
Mm-hmm. Alors parmi toutes les histoires, 30 hein, bien sûr, mm-hmm. que vous racontez, il y en a une qui est devenue votre préférée ? Et si oui, pourquoi ?
Non, vraiment pas. Je ne vois pas pourquoi j'en préférerais une. C'est un petit peu comme de demander lequel de vos enfants préférez-vous.
Ah non, je parlais d'un bonbon.
Non. Tout ont leur charme. Alors c'est vrai que pour le coup, voilà, toutes celles qui peuvent être un petit peu en lien avec la musique, qui est mon média de prédilection, me font voilà, me parle peut-être un petit peu plus particulièrement, mais voilà, ce serait un peu injuste pour d'autres qui ont des raisons d'être, qui sont tout aussi croustillantes pour d'autres raisons.
Mmh, bien sûr. Alors, dans quelle mesure avez-vous fait la part des choses entre la légende populaire et la réalité historique vérifiée ?
Bah, justement, l'idée... Je me suis rendu compte au fur et à mesure que quelque part, on pourrait parler de petites enquêtes. L'idée était encore une fois de parfois comprendre, juste comprendre comment une ville, enfin comment cet épisode, ça a pu se dérouler à cet endroit-là alors que rien n'y prédestinait, quoi, mm-hmm. ou que bien peu de choses pouvaient l'expliquer. Par exemple, tout ce qui peut être justement en lien avec... En parlant avec mon éditeur, en fait, il me disait que j'étais... je pense que c'est un peu à mi-chemin entre la blague et le sérieux. Et il disait que j'étais un démystificateur. L'idée étant justement de, voilà, encore une fois, comprendre les choses. Donc, même des choses relativement badines, anodines, comme ça. Mm-hmm. Il s'agissait juste... de finir de dérouler la plot, de finir d'enquêter. Alors, c'est pas des grandes enquêtes, voilà, je me suis pas plongé dans les affaires juridiques ou quoi, mais l'idée c'était justement d'aller au bout et d'essayer de faire la lumière, mettre un peu de clarté sur des événements qui, pareil, sont parfois connus, parfois mal connus, parfois, mais de toute façon toujours très rigolos ou sympathiques.
Oui, oui. Alors, aborder des sujets comme les ovnis demande un traitement particulier, je suppose. Vous avez traité ces récits comme de l'histoire populaire, du folklore, vous avez fait...
Pareil, la curiosité, juste, encore une fois, je ne crois pas aux ovnis plus que de raison. Je ne dis pas non plus qu'ils n'existent pas. J'ai recensé des témoignages. Mm-hmm. Et comme dit, voilà, vous avez des témoignages qui se coïncident, qui se corroborent, des observations qui se font dans des mêmes endroits, des mêmes périodes. Oh, c'était vraiment plus pour la blague, on va dire. Enfin, j'avais envie de traiter le sujet parce que moi-même, il m'avait fait sourire et puis je l'ai pris de façon avec à la fois toute la légèreté qu'il faut et sans chercher plus que de raison à mettre de la science derrière. Mais par exemple, voilà, on a le cas des amarantes. Le cas des amarantes à l'Axou, qui doit dater de 1982, si je dis pas de bêtises, est considéré comme une rencontre du troisième type, à savoir que c'est une rencontre très rapprochée entre un terrien et un ovni. Celle-ci aurait été faite donc par un biologiste très sérieux et ça reste comme l'un des grands témoignages de l'ufologie. Mmh. Et ça a eu lieu à Lacsou, par exemple. Voilà le genre de petites choses que vous trouverez dans le livre.
Oui, oui. Bah, on s'aperçoit surtout qu'ils sont venus beaucoup dans notre région.
Oui, c'est un petit peu la blague. Ils passent souvent par la Lorraine avec leur vaisseau.
Oui, c'est ça.
Oui, bon, a priori, on n'est pas non plus les seuls. Hein.
Oui, bien sûr.
Je n'ai pas non plus creusé, je ne suis pas ufologue, je ne suis pas... Mais voilà, a priori, il y aurait des explications données de par le fait qu'il y aurait une proximité avec des ressources en minerai ou choses comme ça. Bon, là, j'ai mis l'information brute de brute, je n'ai pas d'avis sur le sujet.
Alors, y a-t-il une légende que vous aimeriez partager avec nos auditeurs?
Ah, bah, déjà, est-ce que... S'agit-il véritablement de légende? Ça fait deux fois que vous me demandez...
Quelquefois, il y en a... C'est resté un peu dans la mémoire collective comme une légende plus que comme une vraie histoire.
Bah justement, l'idée, c'était souvent d'essayer de comprendre ou d'essayer d'aller au bout de l'histoire, essayer de comprendre ce qu'il pouvait y avoir derrière. On parlait des ovnis juste à l'instant, je parlais du cas des Amarantes, qui est pareil, je vous dis, fait partie vraiment des grands moments de l'ufologie. Je pourrais rajouter l'histoire, donc pareil, témoignage attesté par la presse de l'époque de cette observation qui aurait été faite au milieu des Vosges, entre Épinal et Saint-Dié, où une soucoupe serait apparue devant un bûcheron qui n'aurait rien trouvé de mieux, là on était dans les années 50, que d'attaquer la soucoupe à la hache. C'est dans la liberté de l'Est de l'époque. Bien mal lui en a pris ce pauvre bûcheron, puisqu'il aurait été projeté de plusieurs mètres justement dans la foulée. Alors forcément, ça donne envie de sourire, parce que quand on imagine la scène, on se dit déjà, outre le fait, est-ce que c'est réel ou quoi, ça peut faire un sujet de nouvelle pour John Gulit, mais voilà, on a envie de rire de ce genre de situation, tout en se demandant si quelque part, voilà, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas finalement une façon de parler des Vosges, est-ce que par hasard les Martiens finalement ne font pas jusqu'à faire une mauvaise réputation en la matière au vu de ce genre de scène.
Alors, je me suis quand même posé la question de savoir si les 33 coups de l'horloge à 10h du soir avaient toujours lieu.
Je vous avoue, je n'ai pas la réponse. Mais autant que je sache, à l'époque, quand j'ai travaillé sur le sujet, il y a déjà quelques années, hein, puisque voilà. Autant que je sache, oui. Ouais, c'était toujours le cas.
D'accord, parce que moi je vais souvent buzz, mais j'ai jamais eu la curiosité de m'arrêter.
Vous irez voir à Thiocourt et j'espère. J'y passe bientôt et je vais essayer d'avoir le fin mot de cette histoire.
Oui, parce que c'est quand même surprenant. Bon, on n'en dira pas plus, on va un petit peu appâter le lecteur, bien sûr. Alors, La Lorraine insolite est votre premier ouvrage. J'ai vu que c'était une réédition. Vous avez beaucoup modifié la première mouture?
Oh oui, il y a deux, trois aspects qui sont... Qui sont réapparus, tout simplement parce que les choses évoluent, parce que moi-même j'ai découvert des choses entre-temps que j'avais pas eu le temps d'intégrer dans la première édition, qui date de 2018. Hein, c'est pas... Mais oui, il y a quelques petits ajouts, comme par exemple le film Rosalie qui est sorti en 2023, que je me suis empressé de regarder quand j'ai découvert qu'il était sorti. Et donc Rosalie, c'est justement, c'est un film... qui en fait n'est pas un biopic de la femme à barbe, mais très fortement inspiré de vie au pluriel des femmes à barbe au 19e, début 20e. Le film est assez plaisant dans le sens où il traite bien le sujet. Les personnages sont tout à fait crédibles et agréables. Et ça donne justement une idée. Enfin voilà, il y a beaucoup de références qui sont faites au fait que la femme à barbe du film tient un café, commercialise son image, vend des photos, enfin brandit fièrement sa pilosité et son hirsutisme, puisque c'est de ça dont il s'agit. En vendant des photos et en nommant son café ce café de la femme à barbe.
Alors, est-ce que la Lorraine est plus une terre où il y a justement des petites histoires insolites comme ça, ou à part peut-être la Bretagne, mais il y a beaucoup d'autres régions qui ont ce genre de de petits faits comme ça qui peuvent...
Je suis persuadé qu'il y aurait la possibilité de faire ce même livre pour plein de régions. Mais ce n'est pas moi qui me lancerai dans la rédaction de l'Alsace insolite ou de la Champagne insolite ou de la Bretagne insolite, même si on repartage beaucoup de choses avec les Bretons. Le film dont je parlais a été essentiellement tourné en Bretagne, d'ailleurs. Mais une région que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour le coup, il se trouve que bon, je suis lorrain, je ne vais pas dire et fier de l'être, parce que je ne l'ai pas choisi, mais je le vis très bien, merci. Voilà, il se trouve que je suis arrivé là avec des racines. Je serais né en Alsace, en Champagne, en Franche-Comté, en Bourgogne, j'aurais très certainement fait l'ouvrage pour cette région-là, avec les attaches qui sont celles-là. Je n'ai pas du tout de volonté d'idée régionaliste derrière ça. Moi, le principe, c'était tout simplement de m'intéresser à ce qui avait pu se passer aux alentours, autour de nous, autour de moi. Tiens, et ça, est-ce que c'est attesté? Tiens, et ça, c'est quoi? Et c'est pareil, toujours ce petit émerveillement du bout de la rue. Le livre, il aurait pu s'intituler « C'est arrivé près de chez vous ». Mais ça aurait pu faire un double jeu, un jeu de mots un peu douteux avec référence au film avec Benoît Poulvorde. Mais voilà, l'idée, c'est tout simplement aller regarder l'histoire au bout de la rue. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Et en tissant, en poussant de fil en aiguille, on découvre toute une série de choses qui parfois sont beaucoup plus surprenantes qu'on ne l'imagine.
Oui. Alors pourquoi 30 histoires? Vous êtes arrêté à 30?
Si j'en avais eu 40, j'en aurais mis 40.
Ah d'accord.
non,
donc il y a encore de quoi creuser?
On pourrait rajouter quelques sujets. En fait, j'avais tout ça dans mon ordinateur suite à la rédaction, voilà, quand je vous dis de mes années de journaliste, je les ai dénombrés, j'ai dû arriver à 28, 29 en sachant que ce serait intéressant d'en rajouter un ou deux que j'avais pas eu le temps de traiter. Je suis arrivé au chiffre de 30 en termes de pagination, on arrivait à un petit résultat comme ça, voilà, il y a vraiment aucune symbolique derrière ou quoi.
Oui, c'est pour ça. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il prépare un deuxième tome.
Alors, pareil, c'est une question qu'on avait posée aussi. J'aurais peur de faire redite, j'aurais peur de... Puis, pareil, l'idée, c'est vraiment de trouver du croustillant, que vraiment chaque sujet ait quelque chose de fin, apporte quelque chose. Voilà, par exemple, je raconte... Alors, je pourrais rajouter des choses, on va dire, en lien. Il y a plusieurs thèmes, sujets qui ouvrent même sur d'autres choses. Quand, par exemple, je parle de la visite impromptue de McCartney à Nancy, je rappelle à la fin que David Bowie s'est également arrêté pour aller visiter le musée de l'école de Nancy en son temps. Ça doit être en 1996, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'était un fin connaisseur de l'art nouveau. Et juste avant de venir, par exemple, et puis maintenant je peux le dire puisqu'il y a prescription, je lisais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui parlait de George Michael, par exemple, et chose qu'on ne sait pas forcément trop sur George Michael, c'est qu'à chaque fois qu'il était en tournée, il s'arrangeait pour aller visiter des hôpitaux d'enfants, faire des dons justement à ces hôpitaux, etc. etc. Et à cette époque, à l'époque où justement je travaillais dans ce domaine-là, vers 2007, si je ne dis pas de bêtises, il passait au Galaxy d'Amnéville qui nous avait appelé avec qui je travaillais assez régulièrement et qui voulait savoir s'il y avait la possibilité d'organiser, s'ils avaient une idée de comment on pouvait les aider à organiser une visite de George Michael à l'hôpital d'enfants de Vendeuvre, de Brabois. J'ai pas eu de suite, mais toujours est-il que conformément à ce que je vous dis sur les réseaux sociaux avant de vous rejoindre, George Michael a visité l'hôpital d'enfants à cette époque, sans aucune presse, et en amenant une hotte de cadeaux. Voilà le genre de petites choses qui auraient pu se greffer.
Bah oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, à la fin de chaque petite histoire, il y a un QR code. Alors, vous expliquez à nos auditeurs ce que vous avez mis dans ce QR code?
Alors, c'est souvent des liens, justement, vers des sites internet, ça permet d'aider à localiser, justement, des endroits qui sont évoqués dans le livre. Ça renvoie éventuellement vers des vidéos. Ça, c'est un complément d'information, un petit complément visuel qui complète l'article, et ça permet justement d'en savoir plus pour ceux qui voudraient creuser ou qui voudraient avoir plus d'informations, enfin plus de d'informations, plus de matière en lien avec le sujet. Ouais.
On sent que vous êtes bien amusé quand vous avez fait ce livre.
Ah, il y a vraiment une volonté de partager du plaisir.
Oui, c'est ça.
Ce livre, il a vraiment pour vocation de partager de la connaissance et de la joie et voilà du gai savoir, hein, aurait dit l'autre. C'est vraiment à la fois, voilà, il y a quelque chose un petit peu dans le prolongement de ce que je vous disais au tout début de l'entretien, de l'insolite et du sourire et de la connaissance. J'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, je me sens pas romancier particulièrement, je me sers de ma plume pour plein de choses, mais voilà, partager de la connaissance, c'est quelque chose qui est important pour moi, le faire avec humour, plaisir, légèreté et en même temps sérieux, c'est tout à fait moi.
Et vous avez d'autres projets d'écriture en cours ?
Alors, oui, mais on va dire que là, pour le coup, ça ne sera pas forcément dans le même registre. J'ai une autre passion, on va dire, pour la psychologie, et à mon avis, ça, je travaille plus à un livre aujourd'hui, plus en rapport avec mon activité actuelle, et mon changement d'orientation en lien avec la psychologie, justement.
Et ce serait un roman ou plutôt quelque chose d'un peu didactique?
Il est vrai que le roman pourrait être psychologique et que... Non, pour le coup, ça sera quelque chose de sérieux. Enfin, ça sera quelque chose, on va dire, de didactique, on peut dire.
Ouais. Mettre à la portée des gens votre expérience, peut-être?
De toute façon. De toute façon, oui, j'ai un vrai besoin...
De transmission?
À la fois de transmettre, à la fois de le faire de façon agréable, le faire de façon accessible, de vulgariser, comme on dit, je ne trouve absolument pas que ce soit un gros mot, de rendre accessible des notions, des idées, des connaissances. Pour moi, c'est quelque chose d'important.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci à Adrien Chebaud d'être venu nous présenter son recueil La Lorraine Insolite, publié aux éditions La Nuée Bleue. Merci à Marc Seizounou d'être venu nous présenter son roman La Vendeuse et la Malapprise, publié chez Nereia Éditions. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de la nouvelle 20 minutes seulement. Merci à Jean-Luc qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Naturellement. Les auditeurs comprendront, une fois qu'ils auront lu le livre, la chanson de Joe Dassin et le café des Trois Colombes. Au revoir à tous et à bientôt.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait
seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous